Alors, on va continuer notre leçon qu'on avait débutée la semaine dernière, la providence et l'œuvre de notre conversion. Autrement dit, comment Dieu, les moyens que l'Éternel utilise pour amener des personnes au salut. On avait regardé la semaine dernière rapidement les rencontres, les remarques verbales, que des fois, juste une remarque a fait en sorte que quelqu'un est venu au Seigneur. Les moqueries, le Seigneur s'est même utilisé des moqueries. Et il y a des moyens un peu inusités dans le sens qu'on avait vu la semaine dernière une page de catéchisme qui avait été déchirée pour envelopper quelque chose au marché. Et quand quelqu'un est arrivé chez eux, il a lu ça et ça l'a amené au salut. On avait vu aussi les lectures. On était rendu là. Alors moi, personnellement, j'ai été sauvé par quelqu'un qui m'avait donné un petit Nouveau Testament qui lui avait été donné par un catholique. Et lui est retourné dans les sciences occultes. Puis, moi, je suis venu au Seigneur. Alors, le Seigneur utilise des moyens un petit peu bizarres, des fois. Alors, il y a des personnes aussi qui ont été sauvées par la lecture d'un livre chrétien, qui ont été prêtés ou quoi que ce soit. Alors, le Seigneur se sert souvent des lectures pour emmener quelqu'un à la foi. Parfois aussi, un autre moyen, c'est que le Seigneur se sert des erreurs ou des oublis des prédicateurs. Par exemple, on dit que Augustin, qui a vécu au 4e siècle, était en train de pêcher. Et là, il a perdu le fil de son argumentation. Des fois, ça arrive qu'on perd le fil, comme on dit. Et ça l'a amené à parler d'un autre sujet et qui a frappé quelqu'un dans l'assistance et qui a été sauvé par ce moyen-là. Alors, le Seigneur s'est même servi d'un oubli d'un prédicateur. Il y a une autre affaire qui raconte que John Flavel, qui est un puritain, il dit qu'il a connu un pasteur qui s'était trompé de Bible, dans lequel ses notes de sermon étaient, et en avait pris une semblable par mégarde. Et vu qu'il n'avait pas ses notes, le Saint-Esprit lui a mis à cœur d'utiliser un autre texte qui était celui de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Pour lequel il ne s'était pas du tout préparé. Et à partir du texte que le Seigneur, le Saint-Esprit lui a mis à l'esprit, il l'a prêché, puis quelqu'un a été sauvé par ça. Alors, tu sais, le Seigneur utilise différents moyens. Maintenant, bien entendu, qui n'a pas entendu parler que le Seigneur se sert des traités, des fois, pour amener quelqu'un à l'Évangile? Des traités, ça coûte très peu cher. On peut en avoir des piles, des centaines. En prenant une marche, on peut en mettre dans la boîte postale. L'été, on peut en mettre dans les pare-brises des autos. C'est très facile à distribuer. Et le Seigneur les a utilisés souvent pour amener des gens au salut. Alors, quand on a déjà passé une bonne quantité de traités, on en a passé, moi et Lucie, une quantité énorme. En tant qu'on était à Québec, on a passé aussi à... Et quand on ne voit pas de résultats, il arrive un moment où on est découragé et on a envie de lâcher. Voici une histoire qui est une histoire vraie, qui peut nous encourager dans ce sens-là. Alors, tout a commencé il y a plusieurs années dans une église baptiste à Crystal Palace, dans le sud de Londres. À la fin du culte, du dimanche matin, un homme s'est levé à l'arrière, a levé la main et a dit « Excusez-moi, pasteur, puis-je partager un court témoignage? » Le pasteur a examiné sa montre et lui a dit « Vous avez 3 minutes. » Alors, l'homme a commencé son histoire. Voici ce qu'il a dit. « Il n'y a pas longtemps que j'habite ici. Auparavant, je vivais à Sydney, en Australie. Il y a quelques mois, je visitais de la famille et j'ai marché dans George Street, une rue du quartier des affaires de Sydney. Un étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti de l'embouchure d'une porte. Il m'a mis un traité dans la main et m'a dit « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel? » J'ai été stupéfait par ces mots. Personne ne m'avait jamais dit ça. Je l'ai remercié avec courtoisie. Mais pendant tout le chemin de retour vers Londres, cette rencontre m'a travaillé l'esprit. J'ai appelé un ami et je remercie Dieu parce qu'il était chrétien et il m'a conduit à Christ. Les baptistes aiment beaucoup les témoignages comme celui-là. Tout le monde a applaudi et a accueilli chaleureusement cet homme dans l'Assemblée. Je la continue parce que c'est tellement une belle histoire. Mais la première fois que je l'ai entendue sur un petit vidéo, j'en ai pleuré tellement c'est une belle histoire. Alors, le pasteur Baptiste a voyagé à Adelaide, en Australie, la semaine suivante. Et 10 jours plus tard, pendant un séminaire de 3 jours dans une église baptiste à Adelaide, une femme est venue à lui pour quelques conseils. Il lui a demandé comment elle avait rencontré Jésus. Elle a répondu, « Je vivais à Sydney il y a quelques mois. J'ai été visiter des amis à Sydney et faire quelques achats de dernière minute à George Street. » Un étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti d'une porte, m'a offert un dépliant et a dit, « Excusez-moi, madame, êtes-vous sauvée? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel? » J'ai été perturbé par ces mots. Lorsque je suis arrivé à Adelaide chez moi, je savais qu'il y avait une église baptiste dans mon quartier. Je suis allé voir le pasteur. Il m'a conduit à Christ. Je suis maintenant chrétien. Le pasteur de Londres est devenu maintenant très perplexe. 2 fois en 2 semaines, il avait entendu les mêmes témoignages. Il a ensuite pris l'avion pour prêcher dans l'église Mount Pleasant à Perth. Lorsque sa série d'enseignements fut terminée, le responsable des anciens de cette église l'a amené déjeuner. Il lui a demandé comment il avait été sauvé. Il lui dit, j'ai grandi dans cette église depuis l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais eu de réelle relation avec Jésus. J'avais suivi le mouvement, comme tout le monde. En raison de mes capacités d'entrepreneur, j'ai eu une place prépondérante dans l'entreprise. Je suis allé faire un voyage d'affaires à Sydney il y a 3 ans. Un vilain petit homme aux cheveux blancs est sorti de l'embouchure d'une porte dans la George Street et m'a accosté par une question. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel? » J'ai essayé de lui expliquer que j'étais un ancien dans l'église baptiste, mais il ne voulut rien savoir. Tout au long de mon chemin de retour vers Perth, j'étais très irrité. Espérant être rassuré par mon pasteur, je lui racontais mon histoire. Mais ce dernier, contrairement à mon attente, donna raison au vieil homme et m'expliqua que je devais absolument rencontrer Jésus. C'est ainsi qu'il me conduisit à Christ il y a 3 ans et que je peux maintenant dire que je suis sauvé. Le pasteur revint de nouveau à Londres et peu de temps après, il vint faire une conférence devant l'Assemblée à Keswick dans le Lake District. Il raconta ses 3 témoignages. À la fin de la conférence, 4 anciens pasteurs s'avancèrent et racontèrent que 25 ans plus tôt, la même expérience leur était arrivée. Ils avaient fait la même rencontre avec le même petit homme au même endroit qui leur avait posé la même question. Ils avaient reçu le même trac et avaient été sauvés à la suite de cela. Le pasteur partit la semaine suivante pour les Caraïbes au cours d'une conférence et il rendit les mêmes témoignages. Au cours de la réunion, 3 missionnaires s'avancèrent et expliquèrent que 20 ans plus tôt, ils avaient été sauvés de la même façon, au même endroit, avec le même homme, avec la même question et avec le même trac. Le pasteur poursuivit son voyage d'évangélisation à Atlanta, en Géorgie, pour une réunion avec 1000 aumôniers de navires. Le responsable de ces aumôniers invita le pasteur à dîner et le pasteur lui demanda comment il était devenu chrétien. Cet homme lui raconta, « J'étais matelot sur un navire de guerre et je menais une vie de débauche. Nous faisions alors des manœuvres dans le Pacifique Sud. Nous avions fait escale à Sydney et tous les soirs nous faisions la Java. Un soir, complètement saoul, je me trompais de bus et je me retrouvais dans la George Street. À ce moment, je crus voir un fantôme. Un homme se dressa devant moi en me remettant un traité. Il me posa cette question. « Matelot, es-tu sauvé? Iras-tu au ciel si tu meurs cette nuit? » La crainte de Dieu me saisit immédiatement. Je fus instantanément dégrisé pour regagner en courant le navire. Là, je suis allé voir l'aumônier qui m'a conduit à Christ. Je suis maintenant le responsable de 1000 aumôniers qui essaient à leur tour de gagner des âmes pour le Seigneur. 6 mois plus tard, le pasteur se rendit en Inde pour une conférence devant 5000 missionnaires. À la fin de la conférence, le dirigeant invita le pasteur pour un repas. Le pasteur demanda également son hôte comment il avait rencontré Jésus. Le missionnaire hindou lui raconta: J'ai voyagé à travers le monde comme diplomate. J'ai séjourné en Australie, à Sydney. Un jour, comme j'avais été faire des courses dans la George Street, un petit monsieur aux cheveux blancs m'accosta, me donna un trac et me demanda poliment: Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé? Irez-vous au ciel si vous mourrez? Je remerciai beaucoup cet homme, mais cette question ne me laissa pas en paix. De retour dans ma ville natale, je suis allé voir le prêtre hindou. Celui-ci, ne pouvant m'aider, me conseilla de m'adresser à la mission chrétienne située au bout de la rue. Le jour même, le missionnaire me conduisit à Christ et j'abandonnai l'hindouisme immédiatement. Je sais, je suis maintenant moi-même missionnaire et j'ai la responsabilité de tous ces missionnaires qui ont déjà conduit au moins 100 000 personnes à Christ. 8 mois plus tard, le pasteur londonien se rendit à Sydney pour prêcher. Là-bas, il s'enquiert auprès du pasteur baptiste de l'existence de cet énigmatique petit homme aux cheveux blancs qui distribuait des tracts dans la George Street. Je le connais, il s'appelle Monsieur Gaynor, mais il est maintenant assez avancé en âge. Je peux vous le faire rencontrer. 2 jours plus tard, des pasteurs se rendirent chez lui et un vieillard minuscule et fragile les reçut. Ses mains tremblaient en servant le café. Et le pasteur de Londres lui fit part de tous les témoignages le concernant. Des larmes coulèrent alors des joues du petit homme et il raconta: J'étais matelot sur un navire de guerre australien menant une vie déréglée et jouant des mauvais tours à mes collègues. Un jour, une crise de maladie me terrassa. Un de mes compagnons, avec qui je n'avais pas été très gentil, m'aida à me relever et me conduisit à Christ. Ma vie changea du tout au tout. J'étais si reconnaissant envers Jésus que je promis de lui rendre témoignage chaque jour à au moins 10 personnes. À ma retraite, je suis venu prendre place chaque jour dans la George Street où je rencontrais des centaines de gens. Pendant les 40 années où j'ai fait cette activité, je n'ai pas vu une seule personne donner sa vie à Jésus. Quelle fidélité! Pendant 40 ans, cet homme a travaillé dans la mission que Dieu lui avait confiée sans jamais voir le moindre résultat. À l'aurore de sa vie, Dieu lui a permis d'entrevoir ce qui s'est réellement passé. Et je suis certain que ces quelques témoignages ne sont que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus grand. Une grande récompense attend cet homme au ciel quand il verra le nombre de gens qui ont été sauvés grâce à son obéissance. Pourquoi si peu de chrétiens sont prêts à faire ce que cet homme a fait? Beaucoup trop marchent par la vue et non par la foi. La plupart veulent être tout de suite récompensés par les résultats de leur travail, sinon ils ne travaillent pas. Si nous n'avons pas notre récompense en bas, l'aurons-nous en haut? Cet homme a eu la foi de travailler de cette façon pendant 40 ans parce qu'il avait l'assurance qu'il plaisait à Dieu. Alors, allons-nous marcher par la vue ou par la foi? Si nous marchons par la vue, ne serons-nous pas agréables à Dieu? Et j'ai mis le lien, ceux qui ont la leçon, le lien où vous pouvez aller voir sur Internet, c'est fait avec une vidéo et c'est tout. On voit que c'est des Anglais d'Angleterre, là, parce que c'est vraiment l'accent britannique. Alors, il y a une vidéo aussi de 9 minutes sur YouTube qui raconte cette histoire-là, qui est vraiment très touchante, la première fois qu'on l'entend. Imaginez-vous, pendant 40 ans, il s'était engagé auprès de Jésus de distribuer au moins 10 traités par jour. 40 ans, il était fidèle, 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 il n'a pas vu un seul résultat. Pourtant, on voit que le Seigneur s'est servi de sa fidélité à distribuer des traités pour que ces gens-là soient amenés à Christ et qui eux-mêmes amènent des centaines, si ce n'est pas des dizaines de milliers de personnes au Seigneur. Moi, je pense que ça nous apprend une leçon formidable. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de résultats qu'il ne se passe pas de quoi. Alors, n'ayons pas peur de semer autour de nous. Maintenant, il y a un autre moyen que le Seigneur se sert parfois pour amener quelqu'un au Seigneur, des civilités. Par exemple, les Juifs qui connaissaient bien Marie de Béthanie étaient venus la voir pour lui exprimer leur sympathie par le miracle de la résurrection de Lazare. Alors, des gens qui sont allés voir Marie parce qu'ils l'aimaient, puis ils voulaient lui dire On est désolé que tu as perdu. Et ça dit dans Jean 11, 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Vous, le Seigneur, ça sert parfois de civilité pour amener des gens à lui. Les persécutions, acte 8, verset 1 à 4. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ou Saul, ravageait l'Église, pénétrait dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes en les faisant jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voyez-vous, les personnes sont persécutées et Dieu se sert de la persécution parce qu'eux, en sauvant de l'endroit où ils étaient persécutés, ils allaient ailleurs puis ils distribuaient des traités. Ils distribuaient l'Évangile d'une façon soit verbale ou soit faire devoir des traités. Dixième moyen, le comportement exemplaire et héroïque de certains chrétiens. Ceux qui ont déjà lu... ceux qui ont déjà connu l'histoire du pasteur roumain qui s'appelle Richard Wurmbrand. Il a vécu de 1909 à 2001. Je vous le conseille, c'est un petit livre, il est écrit en français, c'est extraordinairement motivant pour voir le courage de certaines personnes que malgré les persécutions, ils annonçaient l'Évangile dans les pays communistes, mais à cette époque-là, annoncer l'Évangile à des communistes, c'était risquer ta vie. Il l'envoyait en prison. D'aussitôt qu'il était sorti, on se rapportait à dire, bien là, il va arrêter. Là. Il continuait, il n'a jamais vu un homme zélé comme ça. Tu lis ça, là, puis tu dis, oh, là, mon zèle, si je le compare à lui, là, il est tout petit, comme on dit. Alors, ce pasteur roumain-là, Richard Wurmbrand, il écrit un livre qui s'appelle « L'Église du silence torturé pour le Christ ». Il est président de l'organisation, il y en a peut-être, vous avez déjà entendu parler, « The Voice of the Martyrs ». C'est, il y a une revue qui publiait tous les mois. Il parle des différents pays, un peu comme on fait avec ça. Il parle des différents pays où les gens sont persécutés. Alors, lui avait été emprisonné dans des prisons communistes et torturé pour avoir évangélisé des communistes. Il raconte l'histoire dans son livre que des bourreaux se sont convertis par le comportement exemplaire et héroïque des chrétiens. Autrement dit, quand quelqu'un se fait torturer... le comportement de la personne qui se fait torturer est tellement exemplaire que ça touche le cœur des bourreaux qui se convertissent à leur tour. C'est spécial, ça aussi, là, quand on pense à ça. Alors, on peut avoir l'histoire de cet homme-là et son livre, « L'histoire du silence torturé ». S'il y en a qui s'intéressent, je le lis à la maison. C'est un livre en français, facile à lire. Puis ça nous donne une idée que on pour le zèle, là, il y en a qui sont durs à côté, comme on dit. Et, onzième moyen, le Seigneur se sert parfois des mortalités et des maladies. Dans la vie, quand il arrive une mortalité dans notre famille, quelqu'un de proche, un mari, un enfant, ta mère, ton père, des fois, c'est un choc pour des personnes. Et des fois, le Seigneur se sert de ces moments-là, soit la maladie ou soit la mortalité, pour t'amener à réfléchir à ta destinée éternelle. Et un autre, parfois, je vous l'avais raconté un petit peu la semaine dernière, mais c'est l'histoire de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Alors, voici comment lui a vécu de 1834 à 1892. On le considère comme le plus grand, un des plus grands pasteurs, prédicateurs anglais de tous les temps. Même aujourd'hui, on se sert encore de ses sermons, de ses écrits. C'est un homme qui a eu une influence extraordinaire et qui continue d'avoir une influence extraordinaire. Voici ce qu'il raconte. Il dit, j'étais dans un pays chrétien, j'avais des parents chrétiens, mais je n'avais pas compris la simplicité de l'Évangile. C'est Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur anglais du 19e siècle, qui s'exprime ainsi. Il raconte comment, pendant des années, il se sentait écrasé par le poids du péché malgré une vie honnête et droite. Il éprouvait la nécessité d'être sauvé par Dieu. Mais comment? Dans l'espoir de trouver une réponse à ses besoins spirituels lancinants, le jeune Charles allait d'une église à l'autre, écoutait un sermon sur sermon, en vain. Rien de ce qu'il entendait ne répondait à sa question. Jusqu'à un dimanche matin de janvier 1850, il avait alors 15 ans. En raison d'une forte chute de neige, il ne put se rendre à l'église de Chonchois et dut se résoudre à pousser la porte d'une modeste chapelle. Une douzaine de personnes s'y trouvaient et attendaient le prédicateur habituel. Quand il fut évident que celui-ci ne viendrait pas, vraisemblablement empêché par la neige, il y eut un long silence. Enfin, un homme très simple, de toute évidence peu instruit, se leva. Il lut un texte de la Bible, très court, très simple. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre. » Le prédicateur improvisé avait du mal à lire correctement le texte, mais il sembla au jeune Charles que dans ce même texte, il y avait comme une lueur d'espoir qui s'allumait pour lui. Une courte prédication suivit la lecture d'un texte d'Ésaïe 45, 22. « Mes chers amis, c'est vraiment un texte tout simple. Il dit « Regardez ». Ce n'est pas très compliqué de regarder. Cela ne demande pas un grand effort. Ce n'est pas la peine d'avoir fait des études pour apprendre à regarder. N'importe qui peut le faire, même un enfant. Jésus-Christ dit « Regardez à moi ». Beaucoup d'entre vous regardent à eux-mêmes. C'est inutile. Vous ne trouverez jamais le repos en vous-même. Puis le prédicateur continua. « Regardez à moi, » en parlant de Jésus-Christ, « je transpire des grumeaux de sang. Regardez à moi, je suis pendu au bois de la croix. Regardez à moi, je suis mort, enseveli. Regardez à moi, je suis ressuscité. Regardez à moi, je monte au ciel. Regardez à moi, je suis assis à la droite du Père. Ô pauvre pécheur, regarde à moi. » À la fin de sa courte prédication, l'homme parcourut du regard le maigre auditoire. Il aperçut un visage nouveau et interpella Charles Spurgeon. « Jeune homme, tu as l'air malheureux et tu seras toujours malheureux si tu n'obéis pas au texte. Mais si tu le fais maintenant, à cet instant même, tu seras sauvé. Jeune homme, regarde à Jésus-Christ. » Par la suite, Charles Spurgeon dira « À ce moment-là, je vis le chemin du salut. Je fis la chose la plus simple de toutes, croire en Christ crucifié, accepter son salut parfait, n'être rien et le laisser être tout, ne rien faire mais se confier en ce qu'il a fait. Cet heureux jour où je trouvai le Seigneur, jamais je ne l'oublierai. » Spécial, hein? Alors, aussi, un autre moyen que le Seigneur utilise parfois, c'est la musique et un accueil chaleureux. Ça, c'est, pour moi, ça parle fort, ce texte-là. Le grand avocat américain, Philip Morrow, il écrit des livres chrétiens d'une très, très grande qualité. Philip Morrow, c'est un avocat. Il a vécu de 1859 à 1952. C'était un homme brillant qui avait été élevé dans la foi chrétienne. Il abandonna la foi pour vivre une vie égocentrique. La recherche de la fortune, des plaisirs sensuels et du prestige. Lorsqu'il eut expérimenté toutes ces choses, son âme n'était pourtant pas satisfaite. Il vivait très malheureux et la mort dans l'âme. Il était un homme orgueilleux et avait déclaré que même les théologiens les plus savants n'auraient pas réussi à le convaincre, lui qui était si rationnel. Alors qu'il était à New York, à l'hiver de 1903, et qu'il était en ligne pour acheter un billet de théâtre, il entendit un très faible écho de chants chrétiens. Ces chants provenaient d'une minuscule petite église qui s'appelle le Gospel Tabernacle, sur la 8e avenue, qui n'est pas très loin de la 44e rue où il se trouvait. Une force irrésistible l'attira vers ce lieu. Rien ne l'avait frappé de ce qu'il avait entendu lors de cette soirée de prière suivie d'une prédication. Cependant, l'accueil qu'on lui réserva fut extraordinaire au point où il fut vivement touché. Il se sentit attiré par cette petite congrégation et continua de la visiter régulièrement, même si les gens de cette communauté n'étaient pas de sa classe sociale. La fréquentation régulière de cette église fut l'instrument que le Seigneur utilisa pour l'amener à la conversion. Philip Morrow devint un grand auteur chrétien et défenseur d'une multitude de causes pour le bien du christianisme. Spécial, hein? Une vision maintenant, la conversion de Lydie. La conversion de Lydie, ça dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Oui, le Seigneur permit qu'il y ait une vision, qu'il l'appelait dans une région autre que la sienne, et y est allé, et le Seigneur l'appelait effectivement là. Et la dernière, la curiosité, on sait que la conversion de Zachée, dans Luc 19, versets 1 à 6 et verset 9, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, fils des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Alors, on voit que c'est la curiosité. Trois applications, très rapidement. L'œuvre de la Providence dans notre conversion est digne de notre plus grande admiration et de nos plus hautes louanges. Adorons notre grand Dieu, remercions-le et vivons une vie qui lui apportera honneur et gloire. Deuxième application, notre conversion est sans contredit la plus généreuse et la plus grande œuvre de miséricorde du Seigneur à notre égard. Méditons toutes ces merveilles dans nos cœurs et ceci quotidiennement. Et troisième et dernière, prions l'Éternel de nous ouvrir les yeux pour une plus grande appréciation de cet insondable cadeau. Que le chef d'orchestre des providences de notre conversion soit loué, béni et adoré éternellement. Amen. Amen.